Vivre FM, la vie des associations, podcast.
La vie des associations sur Vivre FM vous propose de faire connaissance avec l'association Handimix et avec les deux personnes qui la représentent, son président, Corentin Hubin-Gentil, pardon. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Et son responsable de la communication, Nicolas Regnault. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres. Qu'est-ce que c'est en une phrase ou deux, comment vous pourriez parler de votre association Handimix ?
Alors Handimix, c'est une association gérée par des étudiants qui s'occupe d'organiser des activités culinaires avec des personnes handicapées résidant dans des foyers.
Oui. En l'occurrence, deux foyers, hein, ce sont les deux foyers que vous avez visités pendant cette année.
Exactement. Il y a un foyer à Neuilly-sur-Seine et un foyer dans le 15e à Paris.
Vous dites personnes handicapées, quel type de handicap vous avez rencontré ?
Donc au foyer se situant à Neuilly, il y a des personnes handicapées, donc des handicapés moteurs et physiques. Et au foyer à Paris, ce sont des femmes qui sont atteintes de souffrances psychiques, en fait.
Alors, on va reparler de tout ça, évidemment, on est là pour ça, mais je voudrais un petit peu qu'on parle de vous, parce que cette association, c'est une association étudiante, c'est tout de même une association qui a 4 ans, et vous, c'est la première année que vous vous en occupez. Comment ça se passe, vous ? C'est une association qui est née dans l'école School Yeseg of Management, où j'ai peut-être dit ça dans le désordre.
Exactement, oui, c'est ça.
Yeseg
School of Management.
Voilà, c'est mieux.
L'association a été créée il y a 4 ans, donc par des étudiants, en deuxième année, et l'association change de membres tous les ans. Donc nous, on est la quatrième équipe, nous sommes 5 membres, et on arrive à la fin de notre mandat, et on est très content d'avoir fait ça toute cette année.
Vous aviez le choix entre plusieurs associations, qu'est-ce qui vous a attiré vers Handimix ?
Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de travailler ou d'échanger avec des personnes atteintes de handicap, et je voulais vraiment avoir cette occasion-là pour découvrir ce domaine. Ça m'a vraiment enrichi. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et vraiment choisir de travailler avec des personnes handicapées, je regrette pas du tout ce choix. Et je pense que c'est pareil pour tous mes collègues.
Vous êtes tout jeune, vous avez 18 et 19 ans, justement. Oui. Vous confrontez au handicap de cette façon, ça ne vous faisait pas peur ?
Alors, personnellement, moi, j'avais déjà rencontré le handicap, donc je connaissais un peu comment ça marchait, mais c'est vrai que au début on avait un petit peu d'appréhension, mais ça s'est tout de suite parti dès la première activité. Il n'y a pas eu de problème, les résidents nous ont très bien accueillis, et donc pas eu de problème du tout à ce niveau-là.
Et Corentin et Nicolas, vous n'aviez pas vraiment d'expérience de travail avec des personnes en situation de handicap. Quelle était l'image que vous aviez du handicap avant de commencer, et quelle est l'image que vous avez aujourd'hui ?
Alors, vraiment, c'est pas forcément une image erronée au début, mais comme a dit Corentin, on appréhendait un peu. Et en fait, les personnes handicapées sont vraiment des personnes très chaleureuses qui ont envie de partager, qui ont du vécu à partager. Et c'était vraiment très, très intéressant et très enrichissant. Et elles ont beaucoup à nous apporter au final. Elles ont peut-être plus à nous apporter que des personnes valides du fait de leur handicap, des difficultés qu'elles ont pu rencontrer dans leur vie. Donc, vraiment, leur expérience à partager était vraiment très, très bonne à prendre.
Corentin, pour votre part ?
Alors, moi, c'est un peu comme Nicolas. On se rend compte tout simplement que c'est des personnes comme d'autres qui ont eu d'autres expériences, une vie différente, mais qui sont pareilles. On peut rire avec, on peut partager des très bons moments avec. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui a le plus changé avec ce qu'on a fait cette année.
Vous avez tous les deux 18 pour vous, Corentin, et 19 pour vous, Nicolas. Vous êtes très jeune et vous vous êtes retrouvés confrontés à échanger avec des personnes beaucoup plus âgées. Il y avait tous les âges, je pense notamment au foyer du 15e avec des personnes, des femmes en souffrance psychique. Est-ce que ça n'a pas posé problème ? Comment ça s'est passé ?
Vas-y.
Alors,
en
non.
plus, vous êtes des hommes.
Oui, voilà. En plus. Alors, il n'y a pas eu du tout de problème. En fait, je pense qu'il y a même eu une certaine complicité qui s'est créée quand on a fait la cuisine ensemble. Et par exemple, voilà, s'il y avait quelque chose où on hésitait un peu, on savait pas exactement quel ustensile utiliser ou choses comme ça, les femmes savaient presque mieux que nous comment l'utiliser. Et donc en fait, ça c'est assez vite tourné en une blague récurrente et c'est très bien passé. Donc il y a pas eu de problème ni au niveau de l'âge ni au niveau du sexe.
En fait, ce sont les femmes qui vous ont appris à faire la cuisine.
Exactement.
Finalement, vous êtes revenu à l'école.
Exactement.
À quoi tenaient vos appréhensions, justement? Vous disiez au départ, on était très intéressé de rencontrer ces personnes handicapées, mais à la fois, on appréhendait un petit peu.
De l'inconnu du monde du handicap, peut-être?
Oui, je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a aussi un peu la peur de...
De mal faire,
de mal faire et de mal dire, d'aborder un point qui peut...
De vexer un peu, de frotter là où ça, justement, d'une certaine façon, enfin que oui.
Exactement, il y a une certaine retenue, on se dit, voilà, il ne faut pas que je parle de ça, il ne faut pas que je parle de ça, il ne faut pas que je parle de ça, alors qu'en fait, pas du tout, ça ne vient pas d'une conversation, et puis on parle de d'autres choses et ça se passe très bien.
Donc, ces personnes vous ont beaucoup apporté, si on résume?
Oui, exactement.
Oui, je pense qu'elles nous ont beaucoup apporté et on a vraiment une vision complètement différente de celle qu'on avait il y a un an.
Ouais.
Alors, on parlera dans un instant de la, comment dirais-je, de la passation de pouvoir, hein, puisque chaque année, ce sont de nouveaux étudiants qui prennent les associations en main quand elles perdurent, et la vôtre va perdurer. Mais moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de ces activités, qu'on entre dans le dur, comme on dit, hein, dans le concret. Et quelles activités, de quel ordre ont été les activités culinaires que vous avez proposées? De quelle nature?
Alors cette année, on s'est donc concentré, comme vous l'avez dit, sur des activités culinaires. On a choisi deux thèmes qu'on voulait faire découvrir les régions françaises aux résidents. Et donc on a choisi cette année le thème de l'Alsace et de la Bretagne. Et on a organisé donc des activités où on faisait découvrir une entrée, un plat ou un dessert à chaque fois aux résidents pour former un repas complet de ces régions.
Vous étiez déjà attiré par la cuisine, ça veut dire que vous-même vous saviez comment concocter ces menus, ces repas, ces plats, ou bien finalement vous vous êtes aidé de l'expérience des personnes handicapées? Non, d'ailleurs vous ne saviez pas exactement si elle était grande ou moins grande.
Oui. Alors, on connaissait pas forcément les recettes,
ouais,
en fait.
Oui.
Y en a, bien sûr, quand on fait des crêpes ou ce genre de choses assez simples, ça va. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'on a appris, qu'on a un peu expérimenté.
Vous avez expérimenté.
Voilà. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Tout était à peu près mangeable. Et donc voilà, oui, on a plutôt appris en même temps que les recettes.
Comment ça se passe, des ateliers comme ça? D'abord, parce qu'il faut que ce soit à la fois didactique, mais il faut que ce soit quand même ludique. Alors, je sais pas, j'imagine, on entre directement, comment on fait? On présente les différentes composantes des repas? Comment ça se passe?
Oui, donc, en fait, on s'occupait de faire les courses avant. Et on arrivait au foyer avec tous les ingrédients les recettes.
Et là, on commençait à faire. Si vous le voulez bien, on va s'interrompre pour une pause musicale, mais on va revenir juste après pour continuer de parler avec vous de vos activités culinaires, activités que vous avez organisées dans le cadre de votre association qui s'appelle Handimix.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, nous sommes avec deux étudiants qui ont tenu de main de maître une association qui s'appelle Handimix. Handimix qui réalise, qui a animé, a réalisé des activités culinaires pour deux foyers. Alors, on était en train de parler avec vous, Corentin Hupin-Gentil, avec vous, Nicolas Regnault, de la façon dont vous organisez ces ateliers cuisine. Alors, donc d'abord, on fait les courses.
Exactement.
Ouais.
Exactement. On fait les courses avant. On arrive donc au foyer avec les ingrédients pour réaliser la recette. Et ensuite, donc au foyer des Graviers, ils avaient une cuisine qui nous mettait à disposition. Et on commençait à faire tous ensemble, à préparer.
C'est bien la cuisine, justement, en groupe ou. Ça peut créer la zizanie, parce que moi j'ai déjà fait la cuisine, par exemple, alors je sais pas si c'est comparable, mais avec des enfants, par exemple, faire un gâteau avec des enfants, c'est bon, il faut quand même tenir un petit peu le truc, hein,
ouais,
parce que vous en avez un qui veut battre les œufs, puis l'autre dit non, c'est moi, et puis c'est moi qui mets le sucre, et puis bon, c'est un peu faut être un petit peu autoritaire.
Faut parfois les canaliser, mais il n'y a jamais eu vraiment d'incident notable entre eux. Ils s'entendaient bien dans l'ensemble et il y avait une vraie entente dans le groupe.
Et ils arrivaient à se répartir les tâches ou c'est vous qui justement étiez quand même maître d'œuvre et qui étiez, je le dis encore une fois, qui faisiez preuve d'autorité, parce que peut-être il faut faire preuve d'autorité de temps à autre.
Alors en fait, on les guidait, c'est-à-dire que c'est nous qui connaissions la recette, donc on leur indiquait les étapes à suivre, mais c'était eux qui réalisaient tout, et on n'a pas vraiment eu besoin de faire preuve d'autorité. Ils réalisaient ce qu'on leur demandait, parfois il fallait les aider un peu quand c'était un peu compliqué, mais pas d'autorité à utiliser.
Alors en général, vous sentiez qu'ils étaient plutôt novices dans la façon de faire la cuisine, ou il y en avait certains qui avaient une petite expérience, qui avaient une idée un petit peu de la façon dont on sert du four, de la plaque et des différents ingrédients?
Alors ça dépendait des personnes. Il y en avait qui, de par leur handicap, étaient assez limitées, donc elles avaient du mal par exemple à casser des œufs, à éplucher des pommes de terre. Mais il y en avait qui n'étaient pas du tout limités par leur handicap pour faire la cuisine, et elles nous apprenaient.
Ah, c'est ça, oui. Parce que vous aviez, on rappelle, hein, deux foyers. Donc le foyer de Neuilly, qui est plutôt habité par des personnes parfois lourdement handicapées, hein, on est d'accord?
Oui.
Et puis le foyer de Paris, l'œuvre Valeret, donc, qui est là et est tenu par des femmes en souffrance psychique. Donc forcément, les expériences n'étaient pas les mêmes, le vécu n'était pas le même.
Exactement. Et même au foyer de Neuilly, on avait des personnes qui étaient très largement capables de battre des œufs, de casser des œufs, de séparer de faire tout ce qui était nécessaire pour une recette, souvent mieux que nous. Donc c'est vrai que ça aidait aussi dans la confection de nos plats.
Mm-hmm. Quelles étaient les limites justement pour cette activité cuisine, les limites des gens que vous avez pu rencontrer? Est-ce que c'était des limites pour comprendre ce que vous leur disiez, ou alors des limites physiques? Il y avait de tout peut-être?
Non, elles étaient. Il n'y avait pas vraiment de limite. Elles étaient capables de tout faire. Des fois, on devait les guider plus ou moins.
Donc là, on parle du foyer de Paris
15e. Du foyer de Neuilly plutôt.
Oui, on peut-être. Parle plutôt du foyer de Neuilly.
Neuilly, oui. Parce
que vous dites elles, mais il y avait
oui,
pas
d'hommes. Ah, les personnes.
Ouais, oui, les personnes.
Les personnes.
Excusez-moi. Non, des fois, on devait les guider parce qu'elles avaient plus ou moins de mal à effectuer certaines tâches. Comme dénoyauter des pruneaux.
C'est pas si simple, hein?
Non, oui, surtout pour nous, ça colle. C'est... Ouais, non, donc c'est pas si simple. Facile. Mais des fois, on les guidait, on faisait avec elles, avec les personnes, donc les tâches, et ça se passait très bien. Il y avait non, pas de limite.
Alors aucune difficulté de compréhension, en tout cas. Ah oui. Aucune. Les seules difficultés qu'il pouvait y avoir pour réaliser une tâche, c'était vraiment plus physique qu'autre chose.
On est bien d'accord, c'est vous qui choisissiez les plats que vous alliez concocter. Alors j'imagine d'une séance à l'autre, comment... C'est ça?
Alors en fait, on avait établi un programme au début de l'année, donc pour faire une entrée, un plat et un dessert breton, et une entrée, un plat et un dessert alsacien.
D'accord.
Et lors de l'activité finale, on a laissé le choix aux résidents du foyer des Graviers de choisir ce qu'ils allaient manger. Et donc, on avait préparé...
Parce que c'est ça le but final, effectivement. Ouais. Faire la cuisine, c'est sympa, mais manger, c'est quand même bien aussi.
Oui, hein, oui, exactement. Hein, c'est aussi leur motivation, et faire quelque chose qu'ils ont pu choisir et donc qui leur plaît, à la fin, ça, je pense que ça leur a beaucoup plu.
Oui, ça changeait aussi de la nourriture de leur foyer. Ça permettrait ça leur permettait de rencontrer du monde extérieur. Donc,
Est-ce que vous avez senti... Pardon, Carole, vous vouliez poser une question, peut-être?
Oui, juste avant de finir sur les foyers des Graviers, peut-être expliquer combien de personnes vous aviez en charge sur ce foyer?
Alors, on avait une moyenne de 6 ou 7 résidents par activité.
Les mêmes à chaque fois?
Oui, pas forcément les mêmes à chaque fois, mais on avait un noyau de résidents qui revenaient et qui participaient à chaque activité. On en avait, oui, 3-4 qui étaient là presque à chaque fois.
Donc, je vous ai bien compris, un noyau de résidents et quelques noyaux de pruneaux.
Exactement.
Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des liens qui se tissaient? Est-ce que vous avez senti une évolution au travers de ces cours de cuisine? D'abord, combien de séances, combien d'ateliers cuisine vous avez proposé aux uns et aux autres? Est-ce que vous avez senti que pour les uns ou pour les autres, ça avait changé les choses, modifié, évolué, fait évoluer les sentiments, les liens?
Alors justement, je vais commencer avec le foyer de Neuilly. Donc concernant ce noyau de résidents qui revenait à chaque activité, vraiment il y a un lien qui s'est créé, qui a évolué, et vraiment on pouvait rigoler avec eux, les relations sont devenues amicales, on était content de se voir à chaque activité, il y avait une attente de leur part et de notre part aussi, et vraiment c'était un bonheur de partager avec eux.
Vous avez proposé combien d'ateliers cuisine pour chaque foyer?
Alors au foyer de Neuilly, on en a organisé 7. Et donc l'œuvre de Falleret de Paris, on en a organisé une et on va en organiser une deuxième la semaine prochaine.
Oui, parce que vous les avez rencontrés plus tard.
Exactement, on a développé le partenariat il y a pas très longtemps et donc on n'a pu organiser qu'une seule activité pour l'instant.
Alors ce que vous disiez, ce que j'ai cru comprendre au travers de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que au foyer des Graviers par exemple, ça n'est évidemment, il n'y avait pas du tout de contraintes et participaient à ces séances les personnes qui voulaient participer, c'est-à-dire que d'une séance sur l'autre ça pouvait changer un petit peu.
Oui, les personnes handicapées participaient sur la base du volontariat. En fait, on les prévenait environ une semaine à l'avance. On allait au foyer pour les prévenir de l'activité et elles pouvaient s'inscrire via une affiche qu'on leur laissait. Et donc, effectivement, il y avait des fois des personnes qui revenaient, des fois des personnes qui ne pouvaient pas revenir car elles avaient d'autres activités prévues à cet horaire.
Quel est le plat qui a été le plus réussi justement par ces pensionnaires, ces résidents?
La flamme queue.
Ouais,
je pense que c'est la flamme queue parce que c'est, je pense que ça leur a beaucoup plu de pouvoir, on pouvait un peu personnaliser. C'est un peu comme une pizza où on met un peu ce qu'on veut dessus.
On met un peu ce qu'on veut, ouais.
Et je pense que ça leur a beaucoup plu et vu ce qu'il en restait à la fin, ça leur a beaucoup plu.
D'accord. Et de toute façon, vous avez participé vous aussi, vous avez mangé avec eux.
Bien sûr. Oui, on mangeait avec eux à la fin. C'était aussi
Aussi le but,
voilà, de pouvoir déguster, partager.
De tout partager.
Voilà.
Exactement.
Très bien. Ben nous, on boit vos paroles. Et on va continuer le déboire jusqu'à 11h, puisque vous allez continuer de nous parler sur l'antenne de Vivre FM de l'association Handimix, après une pause musicale.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, dans la vie des associations, nous faisons mieux connaissance avec l'association Handimix et par conséquent avec ceux qui la représentent aujourd'hui, son président Corentin Huppin-Gentil et son responsable en communication Nicolas Regnault. Alors, on parlait comme ça en antenne, on se demandait, d'abord il faut savoir que effectivement, en ce qui concerne le foyer des Graviers, ça y est, vous avez fait la dernière, vous les avez quittés, hein, ces gens, ces 7 personnes en général, 7 à 8 personnes qui étaient avec vous et qui faisaient la cuisine avec vous, ça s'est terminé, j'allais dire, en bouquet final, par un goûter.
Exactement. Alors, on a fini nos activités avec le foyer de Neuilly et on a pu organiser une dernière activité finale où toute notre association était présente et où la plupart des résidents qui sont venus cette année à nos activités avaient pu être présents aussi. Et ont donc pu choisir ce qu'ils mangeaient.
C'est ça. Là, ils ont choisi. Alors, d'une part, ils ont choisi ce qu'ils voulaient manger pour se goûter. Et en plus, vous les avez amenés faire les courses avec vous.
C'est ça. On les a emmenés faire les courses. Donc acheter les ingrédients pour les recettes qu'ils avaient choisies et ça s'est très bien passé. Mm-hmm. Et on est revenu, on a cuisiné. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence de la part des personnes qui sont en foyer depuis 20-30 ans de sortir faire les courses avec vous?
Oui, il y a quelques résidents qui n'ont pas voulu venir pour faire les courses, peut-être parce qu'ils n'avaient pas envie de sortir, je ne sais pas. Bon, on ne les a pas forcés, hein, bien sûr. On n'a pris que les volontaires.
En tout cas, ça s'est bien passé.
Ah oui.
Oui, c'est sûr. Et puis, je pense que ça montre aussi qu'on avait développé, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, un certain lien d'amitié avec les résidents, parce que c'est, je pense, quelque chose qu'ils n'auraient pas fait au début de l'année. Et c'est vrai que de les avoir vus régulièrement toute l'année, ça leur a donné de la confiance et ils étaient très contents d'aller faire les courses avec nous et de pouvoir choisir ce qu'ils mangeaient.
Et vous avez quelques retours favorables, notamment d'un accompagnant, c'est ça, d'un encadrant hein, de ce foyer qui vous parlait des rapports différents. Il tenait à avoir une autre image face à vous que celle qu'ils ont d'habitude au foyer, c'est ça un peu?
Ah oui, c'est exactement ça. On a eu un feedback d'un des éducateurs du foyer qui, bien sûr, connaît très bien les résidents. Certains d'eux sont là depuis 20 ou 30 ans. Et en parlant, en décrivant ce qui se passait pendant nos activités, on s'est rendu compte, il s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qui se passait quotidiennement tous les jours, les relations entre les résidents et même ce qu'ils nous montraient. Et c'est vrai qu'ils font peut-être des efforts supplémentaires pour avoir un comportement différent envers des personnes qui sont plus extérieur.
Oui. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir, vous ne pouviez pas vous en apercevoir au départ, vous ne saviez pas exactement qu'est-ce que vous alliez apporter comme bouleversement dans le bon sens du terme.
Ben non, on s'en est rendu compte en faisant ce feedback avec cet éducateur. On était un peu surpris parce qu'on ne pensait pas forcément ça. Et on était agréablement surpris au final qu'ils veuillent montrer une bonne image à des personnes qu'ils ne connaissent pas.
Ça veut dire que c'est beaucoup hein, quand même, hein. Vous leur avez apporté beaucoup et ils vous ont apporté beaucoup également. Hein, on alors, peut dire ça comme ça.
Alors exactement, oui, ils nous ont beaucoup apporté. Nous, on a peut-être modifié un peu leur comportement pendant les activités. Mais c'est vrai que pour nous, ça, on a aussi, je pense, que notre comportement, si on faisait un feedback, a beaucoup changé par rapport à entre la première et la dernière activité. C'est vrai que c'est vraiment devenu des personnes assez proches de nous au fur et à mesure de l'année.
Alors, vous en avez terminé avec le foyer des Graviers à Neuilly, à Neuilly-sur-Seine.
Peut-être une dernière question, oui, sur le foyer des Graviers. Vous avez eu la chance d'être seul, on vous a fait confiance, les éducateurs, oui, vous ont fait confiance, vous étiez seul avec les personnes. Est-ce qu'on vous a demandé des gages particuliers? Est-ce qu'on vous a fait passer un entretien pour être certain que vous étiez capable de le faire? Comment ça s'est passé?
Non, en fait, la première activité s'est déroulée de la façon suivante. En fait, on est arrivé et l'éducateur nous a laissé nous occuper du groupe en autonomie.
Il était présent pour observer?
En fait, il nous a laissé dans la cuisine, il est remonté et il nous a dit que s'il y avait un quelconque problème, on pouvait le solliciter. Et il n'y a pas eu de problème. Ouais. Donc, l'activité s'est déroulée sans accroc. Et à la fin, l'éducateur nous a dit que s'il n'y avait pas eu de problème, on était complètement capable.
C'était bien ça pour vous, justement, où vous auriez quand même aimé, malgré tout au départ, que l'éducateur reste avec vous?
Non, personnellement, je pense que c'était mieux pour nous d'être en autonomie. Comme on l'a dit, le comportement des résidents n'aurait pas forcément été le même si l'éducateur avait été là. Et c'est vrai que c'était bien d'avoir un moment juste, un peu juste nous et eux, un peu d'intimité. Et donc, je pense que c'était mieux que les éducateurs nous laissent un peu de marge.
Alors, c'en est terminé, donc, hein, on le disait, avec le foyer des Graviers à Neuilly-sur-Seine. Il vous reste à passer du temps encore avec le foyer, avec l'œuvre Falleret à Paris. Oh. J'imagine que vous allez organiser d'autres séances de cuisine, d'autres ateliers.
Pardon, j'aimerais juste rajouter pour le foyer des Graviers à Neuilly, à l'activité finale, en fait, on leur a offert un livre d'or dans lequel on a mis les recettes, les photos.
D'accord.
Des activités.
Sympa.
pour leur laisser un souvenir, en fait, des activités qui se souviennent de nous. On leur a aussi laissé des tabliers avec
vous n'avez pas rendu complètement dessus. Votre tablier.
Non, bah, on espère qu'ils se souviendront de nous, parce que nous, on se souviendra d'eux. On espère qu'ils garderont une bonne image de cette année.
C'est une belle idée. Vraiment une très, très belle idée. Alors voilà, bah, c'en est terminé avec quelques larmes, j'imagine, hein, quelques regrets.
Ouais, mais c'était émouvant. Hein.
Toute bonne chose à une fin. Il vous reste à organiser, j'imagine, quelques ateliers cuisine avec l'œuvre Falleret à Paris.
Oui, exactement. La dernière fois, on avait donc organisé un repas sur le thème de l'Alsace. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, on organisera donc un repas sur le thème de la Bretagne avec l'œuvre Falleret.
En fait, excusez-moi, comme on a trouvé ce partenariat assez tard, on voudrait faire en sorte que le pérenniser pour les gens qui reprennent l'association l'année prochaine.
C'est ça.
Pour qu'ils puissent élargir leur action sur deux foyers partenaires.
J'allais presque dire, comme vous êtes arrivé un petit peu tard, faut mettre les bouchées doubles.
Bah oui.
c'est exactement ça.
C'est un petit peu ça. Alors là, finalement, vous êtes impatient de les retrouver, ces pensionnaires, parce que elles-mêmes, elles vont vous donner parce que ce sont des femmes, hein, on le rappelle, des femmes en souffrance psychique. Elles-mêmes, elles vont vous donner des conseils, justement, des conseils culinaires pour le coup. Vous attendez quelque chose d'elle aussi?
Alors on attend pas forcément quelque chose d'elle, mais c'est vrai qu'elle nous aide. C'est plus réaliser, c'est pas vraiment nous qui sommes les professeurs et eux les élèves. C'est vraiment on fait la cuisine ensemble, et parfois il y a des choses que nous on sait pas faire, et parfois il y a des choses qu'elles ne savent pas faire. Et finalement, bah, on se débrouille tous ensemble pour réaliser la recette, et après soit bon.
Quand on fait la cuisine comme ça avec des personnes qu'on ne connaît pas, évidemment on parle cuisine, parce que bien sûr, hein, y a le coup de feu, faut quand même faire attention à ce qu'on fait, mais aussi, est-ce que finalement il y a d'autres sujets de conversation qui surgissent, et peut-être un peu étonnant parfois?
Ah oui, bien sûr, la discussion s'élargit. On parle d'actualité, on parle de sport des fois. On parle de tout, en fait. C'est comme si on se retrouvait entre amis et on partage, et ça reste pas que sur l'activité culinaire.
Mmh. Alors, dernière activité, ce sera la dernière activité culinaire que vous allez organiser avec l'œuvre Falleret à Paris?
Alors, ce sera la dernière activité pour nous, oui, mais l'équipe de l'année prochaine va reprendre.
Voilà, l'association continue, on va vous dire dans quelle mesure, justement, elle va pouvoir continuer, parce que ça y est, vous connaissez même, vous pourriez même presque dénoncer les personnes qui vont vous succéder. En tous les cas, on va continuer de parler de vous et de l'association Andimix après une pause musicale sur Vivre FM.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Il nous reste quelques minutes à passer en compagnie de l'association Handimix, représentée par son président, Corentin Huppin-Gentil, et par son responsable en communication, Nicolas Regnault. Alors, Nicolas, Corentin, l'association, vous allez bientôt la quitter. Ça veut dire qu'elle va mourir, l'association ?
Alors non, pas du tout. Heureusement pour nous, on a trouvé des repreneurs pour l'année prochaine, qui sont donc d'autres étudiants de notre école et qui vont reprendre l'association, on l'espère, pour le meilleur.
Sur d'autres activités, sur la cuisine encore ?
Alors ils nous ont montré une certaine motivation et ils ont proposé des idées comme faire des activités sportives avec les résidents.
Et c'est faisable ça ?
Bah, je suis pas sûr que ce soit faisable avec les résidents du foyer des Graviers à Neuilly. Leurs handicaps sont assez lourds. Les activités sportives sont pas forcément faisables, mais par exemple des jeux de société, des activités comme ça sont envisageables, oui.
Ils ont proposé beaucoup de choses au niveau aussi de créer des activités artistiques.
Oui.
Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a choisi ce projet-là, parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup d'idées, et des idées qui nous semblaient intéressantes et qui pouvaient beaucoup apporter aux résidents des différents foyers.
Ça veut dire que vous allez mettre de côté, l'association va mettre de côté les activités culinaires ou on va les ajouter ?
Alors, il était plus question de les ajouter aux activités culinaires.
D'accord. Alors moi, je me pose quand même la question, parce que vous parliez justement de ces repas que vous avez organisés. 7 repas, en tous les cas 7 plats, à défaut de repas, parfois des goûters comme le dernier. Il faut de l'argent pour tout ça.
Alors oui, on a organisé une levée de fonds, donc on a fait des ventes de gâteaux, de boissons dans notre école, ce qui nous a permis de lever les fonds nécessaires à organiser toutes ces activités.
Vous percevez des subventions ?
Pas du tout. Aucune, pas du tout de subvention, ni de l'école, ni de personne.
Les produits de cuisine, les produits pour cuisiner, vous les achetez vous-même ? Est-ce que ça, vous arrivez à trouver le financement justement pour ça ? Ça revient cher finalement ?
Les activités n'étaient pas si chères que ça. On arrivait quand même à trouver, à acheter une certaine quantité de nourriture pour 10 personnes, pour peut-être plus des fois. Je ne sais pas quel coût moyen coûtait à peu près chaque activité, mais nos levées de fonds, nos financements étaient suffisants pour subvenir à ces activités.
Ouais. Alors vous disiez par exemple, vous avez vendu des gâteaux à l'école, vous avez vendu des boissons, mais j'imagine que vous n'êtes pas... Je sais mieux qu'imaginer. On sait que dans cette école, l'ESSEC School of Management, il y a un certain nombre d'associations. Si chaque association a fait pareil que vous, ça veut dire que ça a dû être compliqué, il faut crier plus fort que les autres. Comment on fait pour se faire entendre ?
Alors non, en fait, il y a tout simplement un espace qui est réservé à ça et il n'y a qu'une seule association qui peut le faire. On avait réservé l'espace pour ce moment-là et donc on était les seuls à le faire. Et c'est vrai que les étudiants entre deux cours ont toujours eu petite faim, et forcément quand on voit des crêpes, des gâteaux...
Ah, c'est pas bête.
Voilà.
Ah, c'est pas bête. C'est vrai que quand on a affaire à la jeunesse, on sait que de toute façon, à partir du moment où il y a un petit peu de boisson, un petit peu de boisson gazeuse par exemple, et des gâteaux, normalement ça doit pouvoir marcher.
Exactement, c'est exactement ça. Et en plus, comme la plupart des étudiants connaissent les activités et savent qu'ils aident pour une cause qui bien sûr pour nous est donc d'aider les personnes handicapées, et c'est vrai que ça aide aussi.
Cette association, ça va vous apporter une expérience nouvelle, quelque chose qui va vous aider pour l'avenir. Vous envisagez de faire quelle profession, vous a donné à quel métier l'un l'autre, Nicolas?
Personnellement, j'ai pas vraiment d'idée. J'aimerais bien travailler peut-être dans le domaine du sport. Mais par exemple, travailler...
Oui, pour digérer les crêpes que vous avez mangées, par exemple.
Moi, je les faisais, je les mangeais pas, je les vendais. Et non, mais par exemple, travailler dans le domaine du sport handicapé, vraiment, c'est
alors
une possibilité.
C'est ça. Alors justement, vous y pensiez avant ça, sport et handicap ? Non,
non, moi, vraiment, j'y pensais pas du tout, pardon.
Moi, personnellement, j'ai déjà travaillé, enfin, j'ai déjà participé à ce genre d'événement, donc je connaissais. Et c'est un monde qui m'attire beaucoup. Moi, personnellement, je veux faire de l'événement sportif après, et c'est vrai que l'événementiel handisport aussi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et c'est possible que je m'oriente vers ça après. Oui.
Donc c'est par le biais de cette association qui vous a quand même pris du temps, hein. Moi je suis vraiment admiratif, hein, parce que vous êtes tout jeune, vous faites des études qui somme toute qui ne sont pas forcément faciles, hein, à partir du moment où on atteint un tel degré, ben, c'est pas évident, et malgré tout vous avez pris beaucoup d'énergie et beaucoup de votre temps, ça a dû vous prendre un certain temps, et en dépit de ça, ben, vous ressortez heureux, et vous dites finalement ce temps-là on l'a pas perdu.
Non, parce qu'en plus des activités, il y a du travail administratif. On échangeait beaucoup avec la préfecture à un moment donné. On doit gérer la comptabilité de l'association. On a fait des communiqués de presse pour être publiés dans les journaux. Donc, il y a du travail comme ça à côté. Et non, c'est pas du tout du travail perdu. Ça nous a apporté énormément. Et...
Ça n'a pas été compliqué de passer pratiquement du monde de l'enfance, parce que quand on est au lycée, hein, on est encore malgré tout bordé par papa, maman. Et puis d'un seul coup, on se retrouve un petit peu seul, hein, pour le coup. Là, vous portiez l'association à bout de bras. Vous étiez combien là pour faire fonctionner cette association?
Alors, on était 5. On était donc 5 membres, 5 élèves. C'est vrai que c'est une vraie responsabilité. Ça change. C'est la première fois, en tout cas personnellement, qu'on gérait vraiment une association tout de A à Z. Et oui, ça responsabilise. Après, pour revenir sur ce qu'a dit Nicolas avant, c'est vrai que la planification des activités, ça nous a pris du temps. Mais je pense que les moments passés avec les résidents, c'était vraiment un moment... Bah, moi, je me levais le samedi matin, j'y allais et je me disais, bah, c'est comme si j'allais voir des amis, c'est pareil. Et en plus, je mange bien. Donc voilà, c'était que du bonheur.
Oh, finalement, que du positif, hein.
Exactement.
Il y a eu des moments qui ont été plus difficiles, justement, tout ce qui est administratif, tracasserie administrative. Moi, je m'imagine devant un monceau de papier, je serais mal à l'aise. Devant un monceau de crêpes, moins.
C'est pas forcément la tâche la plus intéressante, effectivement, mais c'est nécessaire, faut le faire et voilà, donc...
Quel conseil vous donneriez à des personnes qui voudraient se lancer dans la naissance d'une association, dans la conception d'une association?
Allez-y, tout simplement. On peut se dire que c'est compliqué, mais non. Nous, on arrivait, on apportait les ingrédients, on faisait la cuisine, c'est pas compliqué. Les personnes handicapées sont très ouvertes à ça, ils adorent ça et c'est si vous voulez le faire, faites-le, parce que c'est vraiment quelque chose qui leur apportera beaucoup et qui vous apportera encore plus.
C'est ça, c'est un véritable échange. Vous ne faites pas que donner.
Non. On reçoit beaucoup aussi.
Alors, je sais pas si ça peut rendre service aux uns et aux autres, peut-être à vous, peut-être à ceux qui vont reprendre l'association, que de donner les coordonnées de l'association Handimix. Est-ce que ces coordonnées vont rester les mêmes?
Alors oui, tout d'abord, on a une page Facebook Handimix, donc H-A-N-D-I apostrophe M-I-X.
D'accord.
Où vous pouvez aller voir, il y a toute l'actualité de l'association, il y a le contact et tout ce qui se passe. Et après, vous pouvez aussi nous contacter directement par nos numéros qui sont donc sur le
site,
Facebook.
De toute façon, sur la page Facebook. Merci Corentin Huppin-Gentil, merci Nicolas Regnault, et bravo pour ce que vous avez fait.
Merci.
Et bravo pour ce que vous continuerez à faire. Bonne route.